É o sexto informativo da Rádio França.
Chama-se Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplin.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI, votre radio dans toute sa richesse et toute sa diversité. Ce soir, c'est avec Amanda Moreau de la rédaction en anglais.
Hello.
Pour nous parler de la viande cultivée en laboratoire. Alors que des pays comme le Royaume-Uni et les États-Unis investissent massivement dans cette technologie, la France est à la traîne. Pour la rédaction en portugais, Karina Branco.
Hola a todos.
Pour un pas historique qui vient d'être franchi en Angola, vers la réconciliation nationale après des années de guerre. Et pour la rédaction en espagnol, c'est Asbel López.
Hola.
À propos du second tour de l'élection présidentielle au Pérou, ce sera après-demain. L'issue du scrutin est toujours aussi incertaine, à deux jours de l'ouverture des bureaux de vote. Mais avant cela, intéressons-nous à ce qui se passe actuellement en Israël, à savoir la fin de l'ère Netanyahou. En effet, il y a la formation in extremis d'une coalition hétéroclite qui pourrait, dès les prochains jours, évincer du pouvoir le Premier ministre. Coalition inédite et hétéroclite, puisqu'elle est composée de 8 partis, 2 de gauche, 2 du centre, 3 de droite et une formation arabe. D'ordinaire, tous les opposent, sauf, cette fois, la volonté d'écarter Benjamin Netanyahou du pouvoir. Tout sauf Bibi, si l'on résume. Karina Branco, vous vous êtes entretenue avec une spécialiste du Moyen-Orient qui croit que cette coalition va effectivement mettre un terme à l'ère Netanyahou.
C'est ça, Philippe. Nous avons parlé avec Maria João Tomás, chercheuse à l'Université autonome de Lisbonne. Et pour elle, c'est un tournant dans l'histoire d'Israël. Écoutons-la.
Eu espero que signifique uma mudança de página em Israel, em que esta má imagem ao longo destes últimos tempos por Netanyahu de
que vous a-t-elle dit?
Elle nous dit que cette coalition représente la fin de l'époque Netanyahu et elle dit espérer que ça mette un point final à la mauvaise image que Netanyahu a donnée d'Israël. Elle parle de mauvaise image au niveau de la corruption, car Netanyahu est lui-même jugé pour corruption, au niveau de l'instabilité politique, au niveau de l'autoritarisme et au niveau de l'emprise sur les territoires palestiniens qui a créé tant d'indignation dans le monde. Donc, cette chercheuse espère que ça mette un terme à la succession d'élections les deux dernières années et que ce gouvernement puisse travailler ensemble.
Alors, comment est-ce que cette coalition si hétérogène, je le disais tout à l'heure, peut-elle survivre?
Malgré le caractère hétérogène de la coalition, avec 8 partis, comme tu as dit, et qui ont des propositions totalement opposées, il y a un point en commun, un mariage forcé pour déloger Benjamin Netanyahou du pouvoir, explique Maria João Tomás. Écoutons-la.
Este governo é um pouco reflexo daquilo que é Israel, que é uma Israel fracionada, que de alguma
Quelle
forma...
Est son analyse, alors?
Alors, elle souligne que cette coalition est le miroir même d'Israël, un pays divisé qui a des sionistes nationalistes de droite de base religieuse, mais qui a aussi un parti arabe de base islamique, des partis laïcs, des partis moins laïcs et plus nationalistes, mais qui ont une force et un point commun. Ils sont tous unis contre Netanyahou. Donc, maintenant, il reste à savoir si la coalition va être approuvée par le Parlement, si elle va tenir et pour combien de temps, sinon rebelote pour une 5e élection législative en 2 ans.
Et du côté de la rédaction espagnole de RFI, Asbel López, qu'est-ce qu'on dit de tout cela?
Mais si cette fin de règne se concrétise la semaine prochaine, comme il est très probable, les Israéliens devront envisager un gros problème, celui de l'ouverture politique. Voilà ce qui nous a dit Luis Grambert, professeur de sociologie politique à l'université Ben-Gurion.
Le problème... Y no es un problema pequeño, es que en el momento en que lo sacan a Netanyahu,
donc il y a un problème pour lui.
Effectivement, la sortie de Netanyahou du pouvoir impliquerait un changement radical de la politique dans ce pays. Car en Israël, la politique est tribale, pour ou contre Netanyahou. S'il part, le jeu politique sera à nouveau ouvert. Ce serait le départ du politicien qui a marqué la vie du pays ces dernières années, écrit pour sa part El País. Grâce à Netanyahou, Israël jouit du plein emploi, le pays a une économie technologique de pointe et il est devenu une puissance militaire régionale, ajoute le journal de Madrid. Netanyahou a réussi aussi la campagne de vaccination contre la Covid. Mais tout ceci n'a pas suffi pour empêcher la dégringolade de sa popularité. Car il est aussi un premier ministre soumis à 4 élections en 2 ans. Inculpé pour 3 chefs d'accusation de corruption, de fraude et d'abus de confiance, Netanyahou est également le premier chef de gouvernement de l'histoire d'Israël à se retrouver sur le banc des accusés pour corruption dans l'exercice de ses fonctions. Il reste le prophète de la politique israélienne, mais seulement pour 25% des électeurs, ajoute El País. Cela étant dit, certains journalistes de la presse hispanophone n'excluent pas un tour de passe-passe de dernière minute.
Et oui, dans la mesure où la perte d'une seule voix ruinerait les chances d'une alternance au pouvoir, hein, puisque la loi israélienne ne permet qu'une majorité absolue pour valider l'investiture. Cela étant, le plus probable, c'est le départ de Benjamin Netanyahou.
En effet, vous avez raison. En tout cas, la correspondante de Télésur au Liban n'exclut pas que Netanyahou arrive à faire capoter la coalition qui veut l'éjecter du pouvoir. Télésur, je vous rappelle, c'est le média officiel du gouvernement vénézuélien. Selon elle, le job n'est pas encore fait. Et Netanyahou est en train de chercher un moyen pour démanteler le nouveau gouvernement. Un marathon sans fin a débuté en Israël, selon elle. La correspondance de CNN en espagnol au Moyen-Orient partage le même avis que sa collègue de Télésur. Le magicien Netanyahou peut encore frapper, dit-il. Il a toujours trouvé dans le passé une formule pour survivre politiquement. En tout cas, il a du temps, peut-être jusqu'au 14 juin, dans le scénario plus optimiste pour lui. D'ici là, il doit convaincre un des 61 députés qui soutiennent la coalition pour que celle-ci ne voie jamais le jour, conclut le journaliste. Verrons-nous le tour de passe-passe ultime de Netanyahou ? Réponse dans quelques jours.
Oui, sachant que la vie politique israélienne réserve très souvent ce genre de surprise. Hein. On est un petit peu comme sous la 4e République en France à l'époque. Hein. Ça se joue à peu avec des coalitions, des alliances et des divorces. Amanda Marot, au service anglais, projetons-nous sur la fin de l'ère Netanyahou. Elle aura forcément un impact important sur les relations entre Israël et les États-Unis.
Sûrement, sûrement. Et c'est une grande question qui suscite beaucoup d'attention. La nouvelle coalition marquerait un nouveau départ avec l'administration de Biden. On sait que Netanyahou a empoisonné ses relations avec les démocrates en s'alignant fortement sur le parti républicain. Il s'agissait d'une rupture avec la tradition, car pendant de nombreuses décennies, les dirigeants israéliens ont cultivé des relations avec des deux côtés de la politique. Aujourd'hui, certains médias américains y comparent Netanyahou à Trump et y comparent la nouvelle coalition israélienne à Biden.
Ce qui est sûr, c'est que la question numéro un entre les deux pays, c'est l'accord sur le nucléaire iranien que Benjamin Netanyahou a toujours bloqué.
Oui, si le nouveau gouvernement israélien n'acquiera pas favorablement le renouvellement de cet accord, il pourrait ne pas s'y opposer, ce qui marquerait une amélioration des relations. Et cette question est déjà utilisée par Netanyahou comme une arme politique alors qu'il tente de conserver son poste. Cette semaine, lors d'une cérémonie en l'honneur du nouveau directeur du Mossad, l'agence de renseignement israélienne, Netanyahou a déclaré que l'Israël devait empêcher l'Iran de se doter d'une arme nucléaire, même si cela signifiait une rupture des relations avec l'administration de Biden. Il constate que la nouvelle coalition serait incapable de tenir tête à Washington.
Encore une question, Amanda Moreau. Que pensent les Américains du départ annoncé de Netanyahou?
Oui, c'est une bonne question. Les deux pays ont beaucoup d'intérêts communs et des valeurs partagées. C'est pourquoi le grand public américain a toujours un sentiment positif envers l'Israël. Cependant, au fil des ans, la relation est devenue excessivement politisée avec des allégations d'ingérence électorale des deux côtés. Le fait que Naftali Bennett soit plus à droite que Netanyahou suscite des inquiétudes aussi. C'est un nationaliste pur et dur, et à un moment donné, cela pourrait devenir un problème, notamment sur la question des colonies israéliennes dans les territoires palestiniens. Selon les analystes, il est toutefois peu probable qu'il veuille commencer à provoquer à Washington. Il sera occupé à gérer sa coalition qui ce qui ne sera pas une tâche facile, étant donné qu'elle est composée de nombreux partis de tout l'inventail politique, y compris le premier parti arabe. En tant que Premier ministre, Bennett, il devrait effectuer son premier voyage à l'étranger aux États-Unis où il cherchera à réinitialiser les relations.
Et bien sûr, sur les antennes de RFI, il sera question de cette page Bibi qui devrait être tournée dans les prochains jours. Vous écoutez Accent du Monde.
20
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Asbel Lopez de la rédaction en espagnol de Radio France Internationale. Après-demain sera une nouvelle journée d'élection au Pérou, une élection présidentielle. Faisons donc un état des lieux. Alors, sont en lice pour ce deuxième tour Pedro Castillo, candidat de la gauche radicale qui se revendique communiste, et Keiko Fujimori, populiste de droite. Est-ce qu'on a une idée de qui va gagner ?
Personne ne sait. Il n'y a pas de favori. Castillo a un léger avantage sur Fujimori. En réalité, rien n'est joué dans ce duel qui met à nouveau en conflit la capitale, Lima et la Provence. Mais avant de parler élection, Philippe, je voulais évoquer la pandémie dans ce pays, car mardi, le bilan des morts Covid a augmenté de façon spectaculaire.
Ah oui, carrément, il a doublé. Hein, il est passé de 69 000 à 180 000. Rappelons que le Pérou est classé 4e en Amérique du Sud en termes de population, avec 32 millions d'habitants. Pourquoi ce rebond soudain du coronavirus ?
Les autorités péruviennes ont réévalué les chiffres suivant les recommandations d'experts. Il s'agit d'un conseil technique mis en place en avril et composé d'experts péruviens et de spécialistes de l'Organisation mondiale de la santé. Après cette réévaluation, le Pérou est devenu le pays le plus touché au monde en proportion de sa population. Il faut savoir que jusqu'à présent, les autorités sanitaires prenaient seulement en compte les décès pour lesquels un test confirmait la maladie. Désormais, sont recensées les personnes remplissant sept critères techniques, entre autres les contaminations avérées, mais aussi les cas probables présentant un lien épidémiologique avec un cas confirmé.
Alors, cela dit, pourquoi est-ce qu'il y a autant de morts du Covid-19 au Pérou ? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans la stratégie du gouvernement ?
Et nous avons posé cette question à un spécialiste péruvien. Il s'agit du médecin Herbert Cuba, spécialisé dans des politiques de santé publique. Il a évoqué plusieurs raisons au micro de notre collègue Astrid Pilpe. Entre autres, la très mauvaise gestion des tests rapides de la part de l'équipe du président Martín Vizcarra, destitué fin 2020. Son gouvernement avait mis en place aussi des vérifications supplémentaires aux certificats établis par les médecins suite à la mort d'une personne par Covid. Le résultat, les autorités avaient une analyse faussée de la réalité de la pandémie. Il faut ajouter aussi un élément clé. Vizcarra n'a pas tenu compte de la diversité du pays. À ce propos, écoutons ce que nous a dit le docteur Herbert Cuba.
Le président Vizcarra a fait une quarantaine nationale, comme si le Pérou fût uniforme, comme si le Pérou fût seulement Lima.
Vous parlez de la diversité du pays, il parle de disparité hein, plus précisément. Hein.
Oui, c'est un peu la même chose. En tout cas, en 2020, le gouvernement avait décrété un confinement national qui ne prenait pas en compte les régions. La situation épidémique à Lima, à la capitale, était très différente de celle de Chumbivilcas, par exemple. Cette province est située dans les hautes montagnes, dans la Sierra Alta, près de Cusco. Même des villages isolés dans les Andes ont dû fermer leurs portes comme à Lima.
Et cette différence entre la capitale et la province, est-ce qu'elle se retrouve d'un point de vue politique, ce qui nous ramène à l'élection présidentielle de dimanche ?
Effectivement, et c'est pourquoi le résultat est difficilement prévisible. En gros, Lima soutient Fujimori, la candidate de droite, la province soutient Castillo, le candidat de la gauche. Attention, les deux candidats sont d'accord sur certains sujets qui sont source d'un fort clivage ici en France. Fujimori et Castillo sont tous les deux contre l'avortement. Ils défendent la famille traditionnelle, ne sont pas favorables aux droits de la communauté LGBTI et s'opposent aux théories du genre dans l'enseignement.
Mais ils sont dans des extrêmes opposés pour tout le reste, hein, ou presque.
Et effectivement, Fujimori, candidate à la présidence pour la troisième fois, défend le libéralisme économique. Selon elle, c'est lui qui a sauvé le pays de la pauvreté et du chaos généré par l'étatisme. Pedro Castillo propose une série de nationalisations et l'arrêt de certaines importations pour renforcer l'industrie locale. Castillo met aussi en avant son honnêteté. C'est l'homme des mains propres. Pendant 24 ans, il a été enseignant dans une école rurale.
Oui, et ça, c'est un solide argument pour mener campagne électorale, car Keiko Fujimori, qui est donc la fille de l'ancien président Alberto Fujimori, elle a des démêlés avec la justice.
Eh oui, Castillo fait référence aux 30 années de prison requises à l'encontre de Keiko Fujimori dans le cadre du méga scandale Odebrecht. Fujimori a déjà passé 16 mois en détention provisoire pour blanchiment d'argent présumé dans cette affaire. Mais la candidate rétorque que Pedro Castillo mènera le pays à la dictature et à la ruine, le Pérou devenant à nouveau Venezuela. Et ceci est le principal argument de la droite en Amérique latine. Les électeurs trancheront ce dimanche.
Bien évidemment, la rédaction en espagnol à laquelle vous appartenez, Asbel Lopez, va suivre tout cela de très près, mais bien évidemment, toutes les antennes de Radio France Internationale. Karina Branco, de la rédaction portugaise. Vous avez choisi, vous, de nous parler d'un pas historique qui vient d'être franchi en Angola, pays lusophone, vers la réconciliation nationale.
En effet, Philippe, le président angolais a fait une déclaration inédite le 27 mai, 44 ans après le massacre du 27 mai 1977. Cette date, c'est une tentative frustrée de coup d'État qui a été réprimée et qui aurait par la suite provoqué une purge au sein du parti au pouvoir, le MPLA, qui était divisé à l'époque et qu'aurait fait environ 30 000 morts selon les chiffres officiels et 100 000 selon les chiffres de la Fondation 27 mai qui s'occupe de la mémoire de ces victimes. Écoutons d'abord les mots du président angolais, João Lourenço.
Não é hora de nos apontarmos o dedo procurando os culpados. Importa que cada um assuma as suas responsabilidades.
Alors, quelle est la teneur de ce discours officiel?
Il dit que ce n'est pas le moment de pointer du doigt et de chercher des coupables parce qu'il est important que chacun assume ses responsabilités. Donc, il explique que son gouvernement a décidé de venir auprès des familles des victimes, des conflits et des Angolais en général pour demander des excuses publiques et le pardon au nom de l'État angolais pour le grand mal qu'ont été les exécutions sommaires de l'époque.
Alors, expliquez-nous maintenant pourquoi ce qui vient d'être dit, ce qu'on vient d'entendre, est une déclaration historique.
Alors, c'est une déclaration historique parce que c'est la première fois que cette date a été signalée officiellement avec un hommage aux victimes. Il faut aussi voir que le président a reconnu que la réponse de l'État à la tentative de coup d'État de 77 a été disproportionnée et a provoqué des victimes innocentes. C'est aussi la première fois que le parti au pouvoir depuis l'indépendance, le MPLA, reconnaît ce massacre et la première fois que le président prend la parole et crée une commission pour la réconciliation nationale. Ces paroles symboliques vont être accompagnées par des actions demandées depuis des années par les familles des victimes, c'est-à-dire des recherches des corps et l'attribution d'actes de décès. Les familles espèrent donc pouvoir faire enfin leur deuil.
Enfin, au demeurant, le porte-parole de l'association des victimes parle plutôt d'une manœuvre politique. Pour quelle raison?
Exactement, le porte-parole de la Fondation 27 mai, Lucas Pedro, nous a parlé plutôt de manœuvres politiques un an avant les élections présidentielles et à un moment où João Lourenço a perdu beaucoup de popularité à cause de la crise économique et même à cause des manifestations réprimées l'année dernière. Écoutons-le.
À nosso ver, isto é uma manobra política, as declarações, tudo bem, que era isso que nós precisávamos ouvir.
Il défend la mémoire des victimes, que dit-il?
Il dit que la demande d'excuses de l'État est donc une manœuvre politique, même si les familles avaient besoin de les entendre. Il dit que le président est en train de profiter politiquement du sujet parce que sa popularité a chuté. Il ajoute que jusqu'à l'élection de João Lourenço, les sondages de plusieurs ONG le montraient comme un politicien très crédible et qui transmettait de la confiance à la population. Depuis, à cause notamment de cette crise qui est en train de faire des milliers de victimes aujourd'hui en temps de paix, les sondages montrent que le parti de l'opposition, l'UNITA, pourrait vaincre les prochaines élections. En tout cas, maintenant, les familles des victimes vont pouvoir demander les actes de décès, réclamer des recherches pour retrouver les corps. Et toute cette démarche concerne toutes les victimes des conflits après l'indépendance et jusqu'à la fin de la guerre civile en 2002. C'est un travail qui a commencé il y a à peine 2 ans avec la création demandée par le président de cette commission de réconciliation en mémoire des victimes des conflits politiques.
Et ce qui est considéré comme une volonté de réconciliation nationale, finalement.
En tout cas, comme un point de départ pour la réconciliation entre les Angolais. C'est ce que nous a dit Bruno Kambundo, historien angolais lié à l'Institut supérieur de sciences de l'éducation de Luanda.
durante muitos anos e a Angola atravessou o conflito interno. Muitos são aqueles indivíduos que perderam a vida por conta...
Aidez-nous à comprendre ce qu'il vous a dit.
Alors, il explique que pendant des années, l'Angola a vécu des conflits internes et plein de personnes ont perdu la vie à cause des problèmes politiques que le pays a vécu. Et il y a plein de personnes aussi qui n'ont jamais récupéré les corps de ses familiers ni ont eu droit à un acte de décès. Donc, il dit que c'est une mesure importante, car tous ceux qui ont perdu la vie sont angolais et méritent le respect. Mais pour cet historien, avec la création de cette commission, le président montre une volonté de réconciliation nationale et donc c'est un point de départ pour la reconstruction du pays.
Alors toujours sur cette question, vous avez rencontré l'écrivain angolais Ondjaki, qui était cette semaine à Paris, qui a lu ce geste politique comme un pas vers justement la réconciliation nationale.
Tout à fait, écoutons-le.
Pode ser considerado mais um dos passos para a reconciliação em Angola. Todas as feridas estão abertas.
Que vous a-t-il dit?
Alors, il considère que c'est un pas de plus vers la réconciliation en Angola, car toutes les blessures sont encore ouvertes. D'autant plus que le 27 mai 1977 est un des épisodes les plus complexes et les plus difficiles d'en parler en Angola. Pour cet écrivain, ce qui est plus frappant n'est pas tant que le président ait parlé en tant que président du pays, mais en tant que président du parti au pouvoir, le MPLA, et c'est la première fois que quelqu'un du parti a eu le courage de se prononcer là-dessus et de demander des excuses à toutes les victimes de toutes les factions. Il faut juste savoir que la tentative de coup d'État a été menée au sein de MPLA et que la purge a éliminé des milliers de ses militants en 1977. Et juste pour finir, je vous rappelle aussi que cette présidence de João Lourenço a été marquée par l'exhumation et les funérailles publiques en 2019 du fondateur et chef de guerre de UNITA, John Savimbi, mort en 2002 au combat et alors enterré dans une tombe anonyme. Ces obsèques ont été aussi vues comme un signe important pour la réconciliation nationale, même s'il y a eu pas mal de contretemps pendant la cérémonie, interprétée par l'UNITA comme un signe que le MPLA a peur de reconnaître le poids symbolique de Savimbi.
Voilà, sur cette page qui se tourne enfin en Angola, même s'il faut encore que tout ça soit consolidé. C'était Karina Branco de la rédaction Lusophone de RFI. Alors qu'en France, il va être l'heure de passer à table pour le dîner, regardons dans notre assiette. On va parler viande, plus particulièrement de quelque chose de nouveau, ce qui s'appelle de la viande cultivée. Le lobby français de la viande cultivée donc demande au gouvernement d'investir dans les technologies permettant de la produire à base de différentes cellules. Alors que les Britanniques et les Américains commencent, eux, à s'y intéresser, la France est plus résistante. Alors, Amanda Moreau, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que cette viande cultivée ?
Elle a plusieurs noms. On l'appelle viande cultivée ou viande synthétique ou même viande propre. Et elle est fabriquée en récoltant les cellules d'animaux vivants dans les bioréacteurs. Ainsi, une seule vache pourrait fournir des millions de steaks sans passer par un abattoir. L'association Agriculture Cellulaire France, un collectif d'universitaires et des scientifiques, tire la sonnette d'alarme sur une industrie qui, selon elle, est négligée par la France alors qu'elle fait des progrès dans d'autres pays. Sa cofondatrice, Nathalie Roland, estime que la France doit commencer à consacrer des fonds au développement d'un domaine qui offre de nombreux bénéfices pour l'environnement, la santé et les animaux. On l'écoute.
What could happen is that the French will eat and consume products coming from other countries and nothing coming from France.
Alors avec un bel accent français, que dit Nathalie Roland?
Si le gouvernement n'investit pas dans les entreprises de viande cultivée en France, Roland nous dit que les Français finiront par manger des aliments importés d'autres pays. L'association argumente que, alors que la Belgique et l'Espagne donnent des millions d'euros d'argent public à des projets de recherche visant à explorer la viabilité commerciale de la viande cultivée, la France y reste opposée. Elle a même interdit la future vente de cette viande aux cantines scolaires. Nous savons que la France est le premier producteur de la viande bovine en Europe. Elle compte plus de 19 millions de bovins qui pèsent sur 13 millions d'hectares de terre, soit la taille d'Angleterre. le puissant lobby agricole français a été blâmé pour la réticence du gouvernement à s'engager dans la viande de culture, la viande cultivée.
Et cette question, elle n'est pas simplement technique, scientifique, elle est aussi très politique, Amanda.
Oui, elle semble être beaucoup plus politique en France que dans d'autres pays. Par exemple, en décembre dernier, lorsque Singapour est devenu le premier pays au monde à approuver les protéines cellulaires, le ministre français de l'Agriculture, Julien de Normandie, a immédiatement manifesté son opposition dans un message sur Twitter. Il a déclaré « Est-ce vraiment cela la société que nous voulons pour nos enfants ? Moi, non. » Il dit clairement « La viande vient du vivant, pas des laboratoires. » Malgré des investissements records dans des entreprises qui veulent mettre dans les assiettes du lapin, du bison, du kangourou et même du foie gras cultivé, on parle de plus de 300 millions d'euros qui ont été investis l'année dernière, la France n'a aucun projet pour tester ce dont cette technologie est capable. Écoutons à nouveau Nathalie Roland.
But it's difficult to talk about this kind of topics in France. I don't know why exactly. I know that we it's like we cannot have like comment dire paisible.
Que dit-elle de cette situation?
Roland, elle dit que la France a du mal à parler de cette question. Elle explique que le réflexe en France est d'interdire les choses plutôt que de chercher des solutions ou d'essayer de faire des progrès dans la technologie. Il y a trop de tensions ici, elle dit. De plus, même si elle est présentée comme sans cruauté ou propre, la viande cultivée a toujours un problème d'image. On reproche à la viande cultivée en laboratoire d'être artificielle, un peu contre la nature.
Alors voilà pour la France concernant cette viande synthétique. Qu'en est-il ailleurs dans le monde, notamment dans les pays anglo-saxons ?
Il y a une acceptation croissante aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Une étude récente a révélé que 80% des consommateurs étaient ouverts à la consommation de viande provenant d'un laboratoire. Ce chiffre atteint 95% chez les jeunes de la Generation Z, c'est-à-dire des personnes âgées de 15 à 25 ans environ. Les jeunes ont tendance à être plus ouvertes d'autres façons de faire les choses. C'est vrai aussi pour les protéines alternatives. Les chiffres du Good Food Institute, c'est une organisation caritative axée sur les protéines durables, montrent que le nombre d'entreprises dédiées au secteur de la viande cultivée a augmenté de 43% l'année dernière pour atteindre 76 entreprises.
Oui, enfin à l'échelle mondiale, 76 entreprises, c'est quand même pas beaucoup. Malgré tout, on voit que tout cela prend de l'importance.
Oui, oui, les progrès technologiques aident les entreprises à relever les deux plus grands défis. Ça, c'est de réduire le coût et augmenter l'échelle de production. De nombreuses entreprises quittent déjà le laboratoire pour s'installer dans les structures plus grandes, capables de produire des milliers de kilogrammes de viande par an. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui mangent de la viande dans le monde. La demande a triplé au cours des 50 dernières années et elle ne cesse de croître. Les impacts environnementaux de la viande étaient très lourds. Il est important de diversifier la façon dont nous la produisons. Cela ne suffit pas que les pays comme la France doivent abandonner leurs agriculteurs. Nous savons que la France y construit une partie importante de l'histoire de la culture. Cela signifie que le secteur de la viande cultivée doit être considéré comme un allié et non comme un ennemi.
Eh bien, dites-moi, pour le pays de la bonne bouffe qu'est la France, ce serait une véritable révolution, bien évidemment. Ça rappelle un film avec Louis de Funès, vous savez, dans les années 70-80, où on mettait une vache à l'entrée de l'usine, elle ressortait en steak, et tout ça a été industrialisé, et ça avait été déjà à l'époque les premiers débats sur la grande bouffe et la malbouffe en France. Donc on va certainement en reparler. Merci pour ce dossier très complet, Amanda Moreau, à retrouver bien évidemment sur le site internet de Radio France Internationale.
RFI, la sélection du mois.
Blackjacks.
RFI. Viva